Xavier Besson, bonne journée. Vous revenez demain ?
À demain.
Dans la matinale de RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Xavier Besson vous en parlait dans son journal. En Guinée, ça y est, le projet de nouvelle constitution est désormais connu. Le texte a été remis jeudi dernier au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Lundi soir, les 199 articles ont été lus en direct à la télévision nationale. Et depuis hier, plusieurs journaux en ligne publient le projet dans son intégralité. C'est donc une étape importante, évidemment, importante de la transition qui vient d'être franchie. Que faut-il retenir de ce texte qui sera soumis à référendum le 21 septembre? Il y a tout de même quelques nouveautés. La durée du mandat présidentiel, le mandat passe de 5 à 7 ans, renouvelable une seule fois. Raison invoquée pour justifier ce changement, le quinquennat est trop court pour produire des résultats visibles. Et qui dit des élections plus espacées dit des économies à la clé, car oui, les élections coûtent cher. Autre nouveauté, la création d'un Sénat, mais aussi d'une cour spéciale de justice pour juger le président de la République et les membres du gouvernement en cas de haute trahison. Un point qui me semble intéressant, si vous souhaitez, on peut en parler, bien évidemment, c'est que les citoyens qui seront opposés à une proposition de modification de constitution pourront lancer une pétition pour bloquer tout le processus. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est qu'aucun article du projet de nouvelle constitution n'interdit au général Doumbouya d'être candidat à l'élection présidentielle, de se présenter à la magistrature suprême. Dites-nous si ce projet de loi est à la hauteur de vos attentes. 33 9 693 693 70. Priorité évidemment aux auditeurs qui nous appellent. Et si j'ai le temps, je lirai quelques-uns des très nombreux commentaires envoyés sur nos réseaux sociaux, WhatsApp et Facebook. Alpha Ousmane, on lance le débat avec vous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Wan. Je vous salue, tous vos travailleurs.
Merci, Alpha Ousmane. Vous disiez au Standard que le 21 septembre, le jour du référendum, eh bien, pour vous, les choses sont claires. Vous voterez non à ce projet de nouvelle constitution.
Ah oui, mon cher ami, parce que moi, je suis non seulement contre l'augmentation de la durée du mandat du président de la République qui était à 5 ans, qu'ils ont ramené à 7 ans. Ça, je suis contre. Et concernant la candidature indépendante, le délai, oui. Et pour cette raison, je voterai non à la nouvelle constitution.
Mais Alpha Ousmane, argumentez un tout petit peu, expliquez-nous pourquoi vous êtes contre le passage du quinquennat au septennat.
Oui, si vous remarquez, si c'est un président qui veut travailler, les 5 ans, ça lui suffit largement de faire quelque chose pour le peuple de Guinée, s'il a la volonté de travailler. Mais vous vous imaginez, en République de Guinée, les dirigeants qu'on a, c'est des dirigeants qui n'ont pas la volonté de travailler. Et s'il arrive à avoir un mandat de 7 ans, donc il va non seulement, la population va souffrir, vous imaginez, pendant 14 ans.
Oui. Alpha Ousmane, le réseau téléphone n'est pas très bon et j'ai bien conscience qu'il pleut énormément depuis 3 jours à Conakry et un peu partout à travers le pays, ce qui a dégradé considérablement le réseau téléphonique. Évidemment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais tous les Guinéens l'ont suivi, cette conférence de presse du président du CNT, le Conseil National de Transition, qui fait office donc d'Assemblée Nationale. Dansa Kuruma s'est expliqué justement sur le passage de 5 à 7 ans. Il a dit « Accorder 2 années supplémentaires, c'est répondre à un besoin de stabilité. » Car à chaque fois qu'il y a des élections en Guinée, eh bien, il y a des tensions, il y a des polémiques, il y a même de l'insécurité. Cet argument de stabilité ne vous a pas convaincu, Alpha Ousmane?
Elles ne sont pas indépendantes, elles sont inféodées, téléguidées par le pouvoir exécutif. C'est pour cette raison que moi, je voterai non à la nouvelle constitution. Et je sais que
Alpha
la
Ousmane.
Majorité des Guinéens voteront ça. Bon. Mais on sait que les résultats qui sortiront, on peut deviner.
Alpha Ousmane, en fait, vous ne m'entendez pas. Je suis en train de me rendre compte que vous ne m'entendez pas. Vous parlez et je parle et vous continuez à parler. Bon, c'est vraiment dû au réseau téléphonique. Décidément, on n'a pas de chance. Bon courage, Alpha Ousmane. Bonne journée. Anthony, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Soyez le bienvenu. Ah, la liaison téléphonique est nettement meilleure avec vous. Est-ce que vous partagez la colère d'Alpha Ousmane à l'instant, qui, lui, voit une stratégie politique dans le passage du quinquennat au septennat ?
Je ne partage pas son avis. Je suis totalement opposé à ce qu'il vient de dire. Parce que souvenez-vous que les élections se faisaient organiser chaque 5 ans. Mais chaque 5 ans, c'était un cycle infernal de conflits entre les Guinéens. Maintenant, on décide d'ajouter 2 années de plus parce que aussi une autre raison qui est vraiment plausible, c'est le coût que ça génère. Interroger un peu la CENI, les dépenses que l'État engageait dans le cadre de l'organisation de ces différentes élections, oui. Surtout la présidentielle.
Ce que disait l'autre jour le président du CNT en conférence de presse, c'est que chaque élection coûte en moyenne 500 milliards de francs guinéens. Un mandat de 5 ans, ce sont 3 élections en 15 ans. Un mandat de 7 ans, ce sont 2 élections en 15 ans. Donc, on économise de l'argent. Voilà ce qu'il a dit en conférence de presse.
Et ces économies qu'on pourra engranger dans le cadre de l'organisation de ces élections peuvent être orientées pour les secteurs prioritaires, les services sociaux de base et ainsi de suite. Monsieur Wan, si vous permettez, encore une fois, les suites aux innovations qui viennent d'être intégrées dans cette nouvelle constitution au niveau des institutions de la République, notamment le Parlement qui devient maintenant bicaméral. Oui. Au-delà de l'Assemblée, on a le Sénat qui vient s'ajouter. Et ce Sénat viendra pour représenter les collectivités décentralisées et les services, les professions au niveau de l'intérieur du pays. Donc, comprenez que...
Oui, mais Anthony, est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Excusez-moi, je vous contredis un tout petit peu. Vous dites, c'est bien, le septennat permettra d'économiser de l'argent et en même temps... le Sénat, est-ce que ça ne risque pas d'être une institution budgétivore ?
Monsieur Wan, l'Assemblée était exclusivement représentée par les partis politiques. Il fallait avoir une affiliation auprès d'un parti politique pour être député à l'Assemblée nationale. Cette fois, oui, les politiques vont aller au niveau de l'Assemblée nationale, mais les collectivités décentralisées et les professions à l'intérieur du pays vont constituer le Sénat. Donc c'est une innovation parce que ça permet de prendre en compte les préoccupations de cette course.
Alors peut-être, mais ça coûtera de l'argent. Et c'est ce que nous dit Aguibou sur WhatsApp. Il nous dit créer un Sénat pendant que les hôpitaux manquent de tout, que l'école est en crise, que les jeunes fuient le pays, c'est de la distraction institutionnelle, dénonce cet auditeur. On veut nous faire croire qu'on se dirige vers une république moderne alors qu'on recycle les vieux schémas de confiscation du pouvoir. Fin de citation. On repasse au standard. Le temps passe vite. 33 9 693 693 70. Bonjour Ousmane.
Oui, bonjour.
Alors,
bonjour Juan, bonjour à l'équipe du jour.
Le projet de nouvelle constitution vous a-t-il convaincu ?
Non, et je vous dis déjà, je voterai non. Et concernant surtout l'article 45 qui définit les conditions présidentielles jugées trop restrictives et exclusives. Voilà le pourquoi je voterai non.
Alors, que reprochez-vous justement aux conditions fixées pour être candidat à l'élection présidentielle ?
Exclusion injustifiée et antidémocratique.
C'est-à-dire ?
Âge minimum élevé, la nationalité exclusive d'origine longue résidence continue, exclut arbitrairement une partie significative et compétente de la population guinéenne des droits fondamentaux de se porter candidat à la plus haute fonction de la République.
Oui. Là, vous êtes en train de nous lire l'article, Ousmane, mais en quoi ces points précis sont discriminatoires ? En quoi cela risque d'exclure potentiellement certains membres de l'opposition ?
Oui, écoutez, Juan, peuple doit pouvoir...
C'est bien de critiquer, mais il faut argumenter aussi, Ousmane.
Je vous suis très bien, mais le peuple doit pouvoir juger de la pertinence d'un candidat par la constitution par barrières rigides.
Oui. D'accord.
Par exemple, mais leaders historiques ou actuels reconnus auraient pu être exclus par de telles règles dans d'autres pays. Nous connaissons tous.
Ouais, j'ai du mal à vous comprendre. Excusez-moi, Ousmane, j'ai du mal à vous suivre. En tout cas, suivre votre raisonnement. Je ne vois pas en quoi les points cités dans la constitution sont discriminatoires.
Oui, et l'exigence d'une résidence continue prolongée, par exemple 5 ans, 10 ans de prolongement, pénalise injustement la diaspora.
Le fait d'avoir une résidence principale en Guinée pour être candidat, pour vous, c'est discriminatoire.
C'est discriminatoire.
Bon, bah je pense.
À ceux qui ont étudié ou travaillent à l'étranger, par exemple, de nombreux Guinéens et de la diaspora tiennent des liens très forts avec leur pays et ils y investissent ou acquis des compétences, des réseaux ou des visions internationales précieuses pour le développement de la Guinée.
Et ces personnes de la diaspora pourraient donc être, ne pourraient pas mettre à profit leur savoir et leur expertise en tant que candidat à l'élection présidentielle puisqu'ils n'ont pas comme résidence principale la Guinée. Moi, s'il fallait argumenter dans ce sens-là, j'aurais pensé peut-être à certains opposants qui, depuis maintenant le début de la transition, ne vivent plus en Guinée et vivent dans des pays de la sous-région. Je pense notamment à Sélou d'Alain Diallo. Alors, est-ce que, justement, cet article, ce point précis est une façon de mettre des bâtons dans les roues à certains membres de l'opposition ? Effectivement, là, ça mérite de lancer le débat. Merci Ousmane. Mohamed, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à l'ensemble de vos milliers d'auditeurs.
Merci de vos encouragements. Mohamed, avez-vous lu la Constitution ? Avez-vous été marqué par certains articles ?
Oui, Juan, il faut quand même comprendre qu'avec ce projet de nouvelle constitution, et lorsqu'on lit avec ces grandes innovations, l'on comprend ici qu'elle reflète l'aspiration profonde, n'est-ce pas, de la majorité des Guinéens, et ce qui nécessite que à partir du 21 septembre 2025, que l'ensemble des Guinéens doivent se mobiliser pour voter oui à ce projet de nouvelle constitution.
Pourquoi ?
Et cela est marquant.
Donnez-moi un exemple concret, Mohamed, qui fait que oui, il va falloir voter favorablement en faveur de ce texte.
Juan, il faut quand même comprendre, comme je l'ai dit, de par ces innovations, lorsque vous prenez l'article 73 et l'article 74 qui accordent des avantages aux anciens présidents de la République de ce pays, parce qu'il était estimé par ces anciens, par des gens une fois au pouvoir, que lorsqu'ils quittent au pouvoir, qu'ils sont non seulement déshonorés, mais aussi ne bénéficient aucun avantage, mais aussi ils sont poursuivis par, lorsqu'on veut comprendre par là des chasses aux sorcières et ainsi de suite, mais aussi le bicaméralisme qu'il faut comprendre aujourd'hui de l'institution parlementaire. N'est-ce pas ? Et de par là, nous parlons aujourd'hui de la création du Sénat. Avec cette création du Sénat, il faut quand même comprendre que le Sénat est la représentativité des collectivités décentralisées, mais aussi une tierce partie qui doit être choisie par des personnalités politiques connues par leur caractère politique, social, culturel.
Le tiers des sénateurs sera choisi par le président de la République en personne, hein.
Justement, le tiers. Donc, ce sont les personnalités des sommités qui sont connues par leur caractère fort politique, social, culturel et professionnel. Ouais. Mais aussi les deux tiers qui doivent être élus sur la base des régions, mais aussi des communes.
Donc, mettre en place un Sénat, c'est une avancée. Le Sénat, c'est une avancée démocratique pour vous.
C'est une avancée démocratique et très majeure. Parce que ici, vous allez comprendre que cela permettra d'équilibrer le développement de notre pays, mais aussi cette chose qu'il faut quand même comprendre et qui constitue d'ailleurs une grande innovation également, c'est que le Sénat sera désormais saisi dans les grandes nominations, c'est-à-dire si le président de la République doit procéder des grandes nominations au niveau des institutions étatiques, c'est que ces propositions doivent être soumises, n'est-ce pas, et à l'avis des sénateurs pour être consultés.
Bien sûr.
Qui éviterait également, vu que nous sommes dans un pays où souvent les nominations sont parfois considérées des connotations ethniques, régionalistes ou communautaires, donc toutes les régions seront représentées au Sénat, toutes les communes seront représentées au Sénat, et donc le Sénat examinera ces nominations et donnera son avis.
Donc ça évitera
ce qu'il faut faire pour équilibrer le développement.
Ça évitera d'encourager le favoritisme, si je comprends votre point de vue. Il y a Doudlé sur WhatsApp qui nous dit « Créer un Sénat, c'est empiler des institutions sans ancrage démocratique réel ». Voilà ce que nous dit cet auditeur. On repasse au standard, le sujet fait réagir, et je le comprends bien évidemment. Bonjour Lamine.
Bonjour Juan.
À Conakry, dans la capitale. Bonjour. Alors, dites-nous, ce texte, il vous a convaincu ? Il est à la hauteur de vos attentes ?
Oui, moi je suis vraiment convaincu de ce texte. Pour une fois, la Guinée est dotée d'une constitution où la majorité de la population a été consultée. Et c'est vraiment un élément majeur que moi je souligne au niveau de cette constitution. Et surtout l'aspect qui m'a surtout frappé, c'est au niveau de la cour spéciale de la République.
Oui.
C'est une cour qui va permettre aux prochains dirigeants d'être contrôlés, d'être jugés en cas de parjure ou en cas de trahison commis au niveau de l'exercice de leur pouvoir.
Oui, alors effectivement, il est prévu de créer cette cour spéciale de justice de la République pour juger le président ou d'autres membres du gouvernement en cas de haute trahison. Mais, et j'ai écouté attentivement mon confrère Sidi Ansané du service Afrique de RFI, qui souligne que l'article 74 de la Constitution vient un peu, on va dire, contredire cette cour spéciale de justice, puisque l'article 74, on est précis, c'est comme ça, stipule que les anciens présidents jouissent d'une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Donc s'ils jouissent d'une immunité, il sera compliqué ensuite d'aller les juger devant la Cour spéciale de justice de la République.
Oui, c'est bien vrai, mais vous devez comprendre que la Guinée, nous, la nouvelle génération, on n'a pas connu d'ancien président. Tous les présidents sont morts au pouvoir. Donc pour
Alpha,
une première
Alpha,
fois...
Excusez-moi, Alpha Condé est toujours vivant.
Alpha Condé, à part Alpha Condé, tous ces régimes qui se sont succédés ici ont commis des exactions. Au temps de Sékou Touré, il y a eu des exactions, au temps de l'ancien Conté. Donc s'il faut juger, au temps d'Alpha Condé, la même chose. Dadis, la même chose. Dadis a été l'exemple frappant.
Et Dadis, excusez-moi, est toujours vivant. Voilà, vous êtes un peu dans la caricature, mon cher Emmanuel.
Mais nous, cette Lamine. Constitution, c'est pour la nouvelle génération. Tout ce qui s'est passé, nous allons faire table rase sur tout ce qui s'est passé. Et pour la nouvelle génération, les nouveaux présidents qui seront élus pour la Guinée, s'ils commettent prochainement des parjures ou une trahison au niveau de la nation, qu'ils soient maintenant jugés. Je crois que c'est un élément dissuasif pour les futurs présidents qui dirigeront ce pays. La Guinée a connu beaucoup d'exactions, beaucoup de crimes et dans l'exercice de leur pouvoir. Et tous ces crimes, ils ne peuvent pas les justifier à un moment donné. Donc il faudrait maintenant mettre un terme à ça. Je crois que c'est vraiment salutaire à mon niveau, moi. Ça
d'accord.
Va permettre
donc votre choix est fait. Le 21 septembre, vous voterez oui au projet de nouvelle constitution. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour Juan. Je salue tous les auditeurs de RFI de par le monde grâce à votre radio,
merci
la plus principale.
De vos encouragements. Emmanuel, est-ce que vous avez déjà fait votre choix? Savez-vous si le 21 septembre, vous voterez oui ou non?
Non. Alors, sur la forme, je pourrais voter oui, sur la forme, parce que dans cette constitution, on a tout prévu, on a très bien agencé les articles, mais sur le fond, non. Et non, pourquoi? Je fonde ma conviction sur l'article 74. Je ne parlerai plus de l'article 44.
Alors, que dit l'article 74?
Non,
je l'ai sous les yeux. Les anciens présidents de la République et leurs conjoints bénéficient de privilèges, d'avantages matériels, financiers et d'une protection dans les conditions déterminées par une loi organique. Je m'arrête là parce qu'il est un peu plus long. Allez-y.
Non, précisément, ce que vous venez de citer, les anciens présidents jouissent d'une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l'exercice régulier de leurs fonctions. Ça, pour ça seulement, je vote non. Parce que ça, c'est une façon d'encourager l'impunité. D'autant plus qu'on a pris l'habitude de pouvoir juger les anciens présidents que nous avons connus pour des faits au moment où ils étaient au pouvoir. Pourquoi ne pas encourager et pérenniser cette action? Moi, en tant qu'activiste et défenseur des droits humains, je pense que cette disposition de la loi, de la nouvelle constitution, doit être retirée. Si on ne la retire pas, moi je voterai non.
Ouais.
Je ne parlerai pas de l'article 45 qui donne aussi la possibilité aux candidats indépendants d'être président de la République.
Et pourquoi?
Moi, pour cette raison aussi, je pense que...
Et pourquoi on peut être candidat à l'élection présidentielle sans forcément être... sans forcément avoir un parti politique. On peut être indépendant.
Non, mais je pense que la fonction de président de la République n'est pas une fonction banale. Qu'on ne peut pas permettre à tout le monde. Je crois que passer par les partis politiques pourrait permettre d'avoir un ancrage communautaire, pourrait permettre d'avoir un passé politique connu, apprécié,
oui.
Et avoir des inséminations au niveau des communautés.
Oui, prenez l'exemple du Gabon. Brice Clotaire-Oligui-Nguema, président de la transition, a pu être candidat et il a remporté l'élection présidentielle sans parti. Il a été candidat indépendant. Le débat était passionnant, il est loin d'être clos. On aura l'occasion très vite de revenir évidemment sur ce sujet. On se quitte, à demain.
PAC au pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour soutenir ses proches au pays vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Et oui, le temps passe très vite. Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé, nous sommes le premier jeudi du mois.
Et on a rendez-vous avec la sexologue de l'émission, Noël Caillarcy. Le thème du jour, double thème, l'amour à distance, les retrouvailles, travail, études, rencontres sur les réseaux. Comment ça se passe, les attentes et la réalité.
On en parle juste après.